Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. Un semblant d'apaisement donné par la réouverture du caveau des patriarches à Hébron semble se faire un jour, et la vie continue pour la famille Levitt. 1995 arrive, mais rien de nouveau sous le soleil. Les attentats continuent, des meurtres sont commis et ne sont pas inquiétés. June relève ceci. Le car avait une escorte militaire, mais les soldats n'ont pas tiré sur les terroristes. Mais un photographe qui vient faire des images de notre désespoir avec son bel appareil, lui, oui, on peut lui taper dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jamais il n'est possible d'avoir confiance dans les jours qui viennent. Toujours la paix d'une journée pour annoncer l'éclair du coup de feu. Reprenons notre lecture. 19 septembre. Pourquoi ? Me demande le journaliste d'un grand quotidien israélien qui fait un papier sur moi. Pourquoi un écrivain qui vit dans ce chaos ? Mais pourquoi restez-vous ici ? Me demande-t-elle. Pourquoi rester parmi ces sionistes, ces religieux extrémistes et nationalistes, alors que vous pourriez choisir n'importe quel autre endroit tranquille dans Israël ? Je lui réponds, ici, il y a une âme, le souffle de l'esprit. C'est surtout l'esprit du fanatisme qui souffle, dit-elle. Et d'où vient-il ? De la Bible ? La Bible est la source du fanatisme juif ? Voulez-vous qu'on oublie la Bible ? Et lorsque je parle de l'esprit d'Hébron, qui est relié au tombeau de nos patriarches, elle ricane. Encore faudrait-il être certain qu'ils aient vraiment été enterrés à Hébron. 20 septembre. Les journaux rapportent que lorsqu'on a dit à Rabin que le lieutenant Oren Edry a été mordu par les souris qui pullulent dans sa cellule, il a répondu « Où est le problème ? Dans ma maison aussi, il y a des souris. » J'ai parlé à un de nos voisins. Il travaille avec des Arabes. Il dit qu'ils ont très peur de la mort, surtout si elle est provoquée par le retour du Messie. Ils ont peur pour l'avenir. Si le Messie vient, comme les Juifs le soutiennent, que se passera-t-il pour eux ? Que deviendront-ils ? Les Arabes seront-ils tous jetés à la mer ? Ils n'ont nulle part où aller. Aucun pays musulman ne veut d'eux. 16 novembre. Le caveau des patriarches est rouvert. Nous y sommes allés avec Franck. Il y a maintenant à l'entrée deux caravanes où les gens déposent leurs armes. Puis les Juifs font la queue pour passer sous un portique de détection de métal. Seulement 400 Juifs peuvent entrer à la fois. Je n'ai jamais vu autant de policiers en surveillance, si ce n'est sous mes propres fenêtres. À l'intérieur du caveau, il y a encore d'autres détecteurs, d'autres soldats et d'autres policiers. La grande salle où Baruch a commis son massacre est barricadée. Aucun juif ne peut y entrer. Toute une installation complexe limite nos mouvements et nous tient sous la surveillance de la police. En retrouvant ce lieu, certains pleurent d'émotion. D'autres s'y sentent désormais étrangers, comme s'il n'était plus le leur. 3 décembre. Baruch Goldstein a finalement son propre tombeau. Dessus, il est écrit « Dr Reb Baruch Goldstein, fils d'Israël Goldstein, 7e génération depuis Rabbi Sher Zalman de Liadi, qui écrivit le livre de Tania, mort dans la glorification de Dieu, le premier jour de Pourim, le 14e jour du mois d'Adar de l'année 5754. 1995. 7 janvier. J'ai utilisé un véhicule d'un nouveau genre qui vient d'être introduit dans nos territoires sans paix. Un car blindé. Vitres, pare-balles et carrosserie renforcées. Samuel et Franck trouvent que c'est là montrer notre faiblesse et laisser croire aux Arabes que nous avons peur d'eux. Je leur ai dit, tant pis pour ce qu'ils croient, mais je préfère ça à vous retrouver criblés de balles. 23 janvier. Un membre du gouvernement a déclaré hier, « Des milliers d'attaques terroristes ne nous détourneront pas de notre but. » Certainement pas. Le peuple juif a montré tout au long des siècles sa résistance aux mauvais traitements et sa capacité à endurer ses souffrances. Mais il lui faut maintenant prouver sa capacité à la dignité et à ne plus accepter d'être une victime perpétuelle. 1er février. La police a achevé son enquête sur la mort de Baruch Goldstein. Il en ressort qu'il a bel et bien été tué après avoir été désarmé et donc abattu de sang-froid. Le ministère de la Justice doit maintenant décider s'il faut incarcérer les meurtriers de Baruch ou si, compte tenu des conditions de sa mort, l'action de la justice cesse. Hier, Oran Nedry a été acquitté par un tribunal militaire de toutes les charges pesant contre lui, sauf une. La charge retenue est qu'il aurait passé un mode d'emploi d'explosif à un voisin, Jacob Ben David. À quoi l'un et l'autre répondent que, comme Jacob construit des immeubles, il avait besoin d'explosifs pour faire sauter les roches afin de creuser des fondations. Résultat, 7 mois de prison. Oren les ayant déjà accomplis, il est revenu à la maison et a retrouvé sa fiancée. 20 mars. Oh, le goût métallique de la peur! Hier soir, le car dans lequel Joshua revenait de Jérusalem a été attaqué. Mais Joshua est sain et sauf. Il sommeillait, courbé en deux, la tête sur les genoux, lorsque le car fut mitraillé. Son ami Shalom a reçu une balle dans le dos. 2 personnes ont été tuées. Une balle a touché le chauffeur à l'épaule, mais il a trouvé la force de conduire le bus jusqu'à un arrêt et d'ouvrir la porte. 3 autres personnes sont blessées. Lorsque Joshua n'est pas arrivé par le car de 19h30, j'ai commencé à m'inquiéter. À 8h15, Franck est rentré à la maison, mais il devait reconduire une femme hors d'Hébron. Elle avait attendu vainement un car. Un peu plus tard, je me décide à appeler la sécurité. Dès que je parle du car, on me répond « Il a été attaqué ?» Franck était dehors et je ne savais plus quoi faire. Et puis la femme du maire de Kiryat Arba a appelé. En entendant sa voix, j'ai aussitôt pensé « Mon fils est mort !» C'est elle souvent qui annonce le deuil. Mais elle a dit « Joshua voudrait que vous le rejoigniez sur le lieu de l'attentat. Il n'est pas blessé ?»« Non, il est seulement en état de choc. » En fait, Joshua est arrivé peu après. Il tenait encore la chemise de son ami Shalom pleine de sang et avec un trou là où la balle avait pénétré dans la chair de l'enfant. On s'est assis avec lui et nous avons longuement parlé pour qu'il puisse raconter et expulser toute cette terreur qu'il avait emmagasinée. Dans le car, il s'était endormi et fut brusquement réveillé par un bruit. Il crut que c'était des pierres. Mais Shalom lui dit « Donne-moi de l'eau, je crois que j'ai reçu une balle. » Joshua pensa qu'il plaisantait. Puis il entendit nettement la rafale de mitraillettes. Et les gens crièrent « Couchez-vous !» Avec Shalom et tous ceux qui le pouvaient, il se laissa tomber sur le plancher du car. Lorsque les tirs cessèrent, Joshua se rendit compte que le car était déjà vide. Il restait Shalom, le chauffeur affalé sur son siège, Nakumos gisant à l'avant et Judas Partouche atteint de plusieurs balles. Sa femme le tenait encore et pleurait. Il y a 2 ans, Esti a perdu sa meilleure amie Ava. La nuit dernière, Joshua, à son tour, a failli voir mourir son meilleur ami. Le car avait une escorte militaire, mais les soldats n'ont pas tiré sur les terroristes. Celui qui était à l'intérieur du car a pris peur. Les Arabes se rendent bien compte de notre faiblesse. Il y a 2 mois, le commandement militaire d'Hébron a été atteint par un missile. Personne non plus n'a répliqué. En ce moment, nous n'avons plus de grands leaders, qu'ils soient religieux ou pas. L'armée israélienne a les mains liées et fait rire l'ennemi. La fragilité des Juifs est perceptible partout dans le monde. Nulle consolation ni soulagement pour nous. Israël n'est pas une terre où nous pouvons trouver le repos. Ceux qui furent de valeureux et fiers colons sont désarmés. Et maintenant, nous apprenons que les soldats israéliens s'entraînent à lutter contre eux. Aux funérailles de Judas Partouche et de Nakoum, nous étions des milliers. Des gens arrivaient de partout. Aussi loin que je pouvais voir, ce n'était qu'un fleuve humain. Des journalistes et des photographes furent violemment molestés. Je le regrette, mais je le comprends. Nous sommes, jusqu'à la mort, pris en tenaille dans un piège politique. Il nous est impossible de frapper le gouvernement, de frapper l'armée, encore moins de nous battre avec Clinton. On ne peut pas même se battre avec les Arabes après qu'ils nous ont tiré dessus. Mais un photographe qui vient faire des images de notre désespoir avec son bel appareil, lui, oui, on peut lui taper dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. 24 mars. La graine se putréfie en terre et de sa pourriture dans la force du printemps naît la fleur nouvelle. Pour respirer un peu, nous sommes allés voir les kabbalistes. Le sentiment m'en est venu que ceux qui étudiaient la face ésotérique de la Torah seront cette nouvelle fleur. Comme disait notre voisine Rachel Chesgal, la rédemption viendra des Juifs non religieux. Je sens que le sionisme religieux est mourant. Nous exhalons notre dernier souffle. La douleur en est atroce, mais le sionisme religieux a façonné une vision du monde, un mode de pensée trop refermé sur lui-même pour être capable de négocier avec les forces politiques et spirituelles qui œuvrent ici aujourd'hui. Pour user positivement du pouvoir, pour apporter la lumière, il faut avoir l'esprit ouvert et une imagination vivante. Si les gens d'ici n'en sont pas capables, ce sont les forces les plus négatives, les plus destructrices qui se libéreront et les conduiront à la sauvagerie. Et n'est-ce pas ce qui arrive? Autrement dit, il nous faut élever notre conscience ou nous en aller. J'ai appelé la veuve de Judas Partouche pour lui présenter mes condoléances. Je lui ai dit que j'étais la mère du petit garçon qui était dans le car juste derrière eux. Elle m'a raconté que son mari ne voulait pas prendre ce car, mais le suivant, il grognait. « Mais pourquoi se précipiter? On peut très bien attendre le prochain. » Mais non, elle voulait absolument qu'ils attrapent celui-là. Elles désiraient rejoindre au plus vite leurs filles, des enfants de 2, 5 et 7 ans, qui les attendaient à la maison. À la dernière minute, ils attrapèrent ce car de 6h30 et trouvèrent des places au 3e rang. Un vieil homme monta encore après eux. Judas voulut lui offrir sa place, mais il refusa en disant qu'il trouverait bien un siège dans le fond. Au moment de l'attaque, quand elle entendit le bruit, comme la plupart des passagers, elle ne réagit pas. Son mari, lui, avait déjà compris. Il la jeta sur le sol, la protégeant de son corps. Tout alla très vite, mais elle eut le temps de se dire que, dans quelques secondes, cela allait être fini. Qu'elle allait se rasseoir, demander à son mari « qu'est-ce que c'était ?» Alors il lui répondrait « juste des pierres ?» Mais les tirs cessèrent. Et il ne se releva pas. Brusquement, elle perçut la pesanteur de ce corps sur elle, le poids de la mort. Elle le repoussa et vit qu'il était atteint. Elle cria au chauffeur « Mon mari est mort !» Mais le chauffeur ne réagit pas. Elle se mit à pleurer sans comprendre pourquoi on l'abandonnait dans un pareil cauchemar. « Pourquoi vous ne me répondez pas ?» hurla-t-elle encore. Mais le chauffeur, lui aussi, avait reçu une balle et il s'était évanoui. Toute cette horreur est maintenant devenue un enseignement pour elle. Quand votre heure est venue, vous partez. Et si ce n'est pas encore votre heure, les balles peuvent bien siffler de tous côtés, elles ne pourront pas vous atteindre. Désormais, sa petite fille de 5 ans attend avec impatience la rédemption. Elle est certaine que son père sera le premier à revenir parmi les vivants et qu'il pourra alors lui raconter toutes ses aventures. Quant à elle, Madame Partouche croit que si Dieu lui a pris son mari, il lui donnera quelque chose en compensation. En revenant de Tel Aviv, approchant d'Hébron, Joshua s'écria « J'ai peur ! Est-ce qu'on va prendre la route où Rafi, Yuri et Margolit ont été tués ?»« Mais non !» répondit Franck, sans faire attention. « Nous prendrons celle d'Ephraïm Eubi. C'est là qu'il a été tué. » Il n'y a tout simplement pas de route qui mène à Hébron et qui n'ait pas déjà bu le sang des nôtres. J'ai dit à Joshua, « Prie ou imagine une lumière blanche qui t'enveloppe et te protège comme une armure. » Nous sommes rentrés sains et saufs. On peut très bien faire ces trajets avec l'impression que rien n'arrivera. Cela fait des années que je vais et viens sans que rien de grave me soit arrivé. Mais en quelques secondes, toutes ces années de chance peuvent basculer dans la fumée d'une explosion ou le sifflement d'une balle et s'anéantir comme si jamais elle n'avait existé. Jamais il n'est possible d'avoir confiance dans les jours qui viennent. Toujours, la paix d'une journée peut annoncer l'éclair d'un coup de feu. « 28 mars. Tu trouveras ta lumière dans l'obscurité. Je ressens profondément la vérité de ces mots. Jamais je n'ai perçu aussi fort la puissance de la foi que hier soir dans le car qui me ramenait à la maison en pleine nuit. Ressentir tout au fond de soi la foi, quoi qu'il arrive et en dépit de l'ombre lugubre qui vous enveloppe, c'est quelque chose qui vous apprend beaucoup. Par exemple, à aimer les gens de Kiryat Arba, sans me soucier de ceux qui peuvent paraître petits, hypocrites ou sceptiques. Je pensais bien plutôt, comme ils sont courageux, ils continuent à vivre ici malgré toutes ces tragédies qui les accablent. 7 morts depuis décembre, mais ils continuent à se déplacer sur les routes dangereuses. Et moi, je suis parmi eux. Tant de gens disent, fatalistes, sur chaque balle est gravé d'avance le nom de la victime, que c'est devenu un cliché pour moi, mais voilà que ça commence à sonner juste dans mes oreilles. Dans ce car, hier soir, j'ai profondément ressenti le sens de l'histoire d'Abraham alors qu'il n'était encore qu'Abraham. Le roi Nemrod, effrayé par les prédictions des astrologues qui avaient deviné la naissance d'un enfant si grand et puissant, le fit rechercher. Abraham lui échappa de longues années, mais finit par être capturé. Le roi le fit jeter dans une fournaise. Cependant, si grande était la foi de l'enfant en la vie, si positives étaient ses pensées et fortes ses convictions, qu'il ressortit du feu sans une brûlure. Aujourd'hui, à nouveau, nous vivons dans le feu et nous espérons en sortir sans être brûlés. Je suis allée à Hébron avec mon ami Guéry. En cours de route, au lieu de comparer les mérites des machines à sécher le linge et de l'étendage au soleil, nous avons parlé de Dieu. « J'ai toujours aimé Dieu, me dit-elle. J'ai toujours pensé qu'il était juste et bon, et j'ai refusé toute autre pensée. » Ma relation à Dieu a balancé d'un extrême à l'autre, de la haine à l'amour. Parfois, l'amour l'emporte et parfois, la haine et le refus. Après la mort de ma mère, après l'évacuation du Sinaï, après la disparition de Aaron Gross, j'ai coupé le contact avec lui. Mais alors, chaque fois, la confusion, la maladie, le désarroi emplissaient ma vie et la plongeaient dans l'ombre. Et c'est un fait tout simple. Lorsque Dieu nous tourne le dos ou lorsque nous, nous nous écartons de lui, alors la tristesse, la mélancolie, le vide et toutes les peurs sont notre lot. Qu'il soit avec nous et le monde prend tout son sens jusque dans l'infinité de ses apparences. Si je progresse dans cette recherche spirituelle et que je m'y élève peu à peu, je vois que mes voisins ici font de même. Parce que nous vivons les mêmes choses, je ne suis pas seule. C'est là une fausse pensée que j'ai eue longtemps et qui m'a fait beaucoup de mal. J'appartiens à la nation juive et tous ensemble nous avançons à travers les douleurs de l'enfantement. Je ne suis pas seule. Guéry dit qu'elle aimerait pouvoir écrire, mais elle n'écrit qu'en crise dans la tristesse et la confusion. Dès qu'elle se sent mieux, elle n'écrit plus. Parfois, elle pense à quelque chose et se dit qu'elle devrait aussitôt l'écrire, mais il y a la lessive à faire. En fait, la seule différence entre ces femmes et moi, c'est que je m'assois à ma table pour écrire. Et peut-être à cause de cela seulement, j'ai parfois pu ressentir une solitude et une tristesse particulière. Mais je crois que de cette ombre-là aussi naîtra une lumière. Alors, peut-être pourrais-je partager tout ce que je sens avec les autres. Je sens que je ne suis pas seule. Ces jours qui viennent sont ceux du Messie. Je sais très bien combien cela a été utilisé comme des mots creux. Mais nous approchons de la fin de notre histoire. Peut-être en sommes-nous les ultimes chroniqueurs. Comme j'aimerais pouvoir demander à un prophète, devons-nous rester à Kiryat Arba? La foi est un grand don, mais il est important aussi de préserver nos vies. Si nous restons ici, pourrons-nous les préserver? Là où le bien œuvre, le mal ne peut prospérer. Voilà ce que signifient pour moi les jours venus du Messie. 29 mars. Parfois, les enfants semblent être plus forts que nous. Dès le lendemain de l'attaque terroriste contre le CAR, Esti et Samuel le reprirent pour rejoindre leur classe à Jérusalem. Et Joshua, après quelques jours, retrouva ses marques. Il invente des chansons et me les chante. Il me joue des sketchs. On ne perçoit son traumatisme que dans son impossibilité à revenir à la routine scolaire. Et il s'est déclaré lui-même en vacances d'été. Myriam, elle, montre ses peurs plus que les autres. La nuit dernière, elle s'est réveillée avec des cauchemars. Esti l'a conduite dans mon lit. Mais ensuite, à chaque mouvement que je faisais, elle s'écriait « Qu'est-ce qui se passe ?» Si je me levais pour quelque chose, elle me suivait aussitôt et j'ai fini par la retrouver tapie dans le noir, fixant le voyant lumineux de la bouilloire. Nous avons un rendez-vous pour elle demain chez un psychologue. Le rabbin de Kiryat Arba a déclaré Si vous pensez que vous pouvez vivre avec la tension et le danger qui règnent ici, alors vous devez rester. Si vous pensez que vous ne pourrez pas le supporter, alors vous devez partir. Kiryat Arba n'est pas pour tout le monde. Chaque personne, chaque famille doit décider pour elle-même. En fait, certains pensent, si je pars, cela va entraîner d'autres départs. Il faut qu'il y ait des gens qui restent pour aider les Juifs d'Hébron et pour garder le tombeau des patriarches. Mais je ne veux pas que quelqu'un de ma famille reçoive une balle dans le cœur ou dans la tête. Quelques-uns, dans ce genre de situation, sont plus forts que d'autres. Hier, j'ai demandé à une adolescente « Allez-vous rester ou partir ?» Elle m'a répondu « La vie est partout dangereuse. Kiryat Arba est encore plus sûre que bien d'autres endroits. » Peut-être n'a-t-elle pas tort. J'ai entendu dire que dans certaines grandes villes des États-Unis, si vous klaxonnez un peu fort, vous risquez de vous faire tirer dessus. C'est vrai que d'une certaine manière, Kiryat Arba est plus paisible qu'il nous le semble. Nous ne fermons pas nos portes à clé. Il n'y a pas de crime de droit commun et nos enfants peuvent revenir seuls la nuit, d'une soirée chez des copains, sans qu'on s'en soucie. Mon amie Ruth dit très bien. Il y a une tempête qui oscille entre le bon et le mauvais front. Kiryat Arba est dans l'œil du cyclone. Et ici, j'ai eu une bonne vie. Dieu a été très bon pour moi pendant toutes ces années. Je vois bien à quoi Ruth fait allusion. Ces derniers temps, en Israël, une partie de la nation, ces Juifs qui vivent dans ce que le monde appelle les territoires occupés, est durement mise à l'épreuve et sévèrement jugée. Tandis que l'autre partie du pays passe son temps à bichonner ses luxueuses voitures. Certains disent que nous sommes punis pour nos péchés. Puis-je demander quel péché ? Chacun doit faire son examen de conscience et pas seulement quelques-uns, toujours les mêmes, qui sincèrement n'ont d'autre vœu que d'être meilleurs. Alors que les autres Juifs d'Israël se lamentent parce qu'on a égratigné leur Mercedes. 30 mars. Hier, deux policiers ont été tués près de Netterem, dans la bande de Gaza. Un camion s'est écrasé contre leur véhicule. Il protégeait un convoi de voitures israéliennes. Il y a eu d'autres blessés et les policiers ont abattu le conducteur du camion. Les autorités palestiniennes de Gaza affirment qu'il ne s'agissait que d'un accident de la route. L'armée assure que c'était un acte de terrorisme. Atmosphère de deuil pendant que les femmes continuent à faire le ménage pour la Pâque. 31 mars. Franck se dit superstitieux. Je lui suggérais que nous pourrions louer un appartement à Tel Aviv ou à Jérusalem pendant un an afin de s'éloigner du danger permanent. Il m'a répondu qu'il aurait bien trop peur d'être écrasé en traversant les rues et qu'il a besoin de la protection du caveau des patriarches. 7 avril. À 11h ce matin, un arabe venant de Gaza et conduisant une Peugeot qui contenait 30 kilos d'explosifs a éventré un car qui allait d'Ashkelon à Gush Katef. 6 personnes sont mortes dans l'explosion et 40 autres ont été blessées. De son bureau de l'école médicale de Beersheba, Frank m'a téléphoné. Sous ses fenêtres, il voyait le balai des hélicoptères transportant les blessés aux urgences. La mère d'Oren Edri raconte qu'elle se couche triste et dort mal. Quand elle se réveille, elle voudrait être heureuse. Mais comment l'être quand il faut sans cesse creuser de nouvelles tombes, réconforter de nouveaux veufs, de nouvelles veuves, de nouveaux orphelins? Une autre attaque terroriste. À peine une heure après la première, et pas très loin, un arabe vient de foncer sur une jeep de la police. Un Israélien est mort et de nombreuses personnes sont blessées, dont des enfants de 2 et 4 ans. 12 avril, trois personnes gravement blessées dans l'attaque du car sont mortes. L'une d'elles était une jeune Américaine de 20 ans, brillante étudiante. Étrange et tragique qu'elle ait trouvé ici sa mort et pas dans les dangereuses rues de Manhattan. Hier, les enfants avaient décidé d'aller faire de l'escalade. Alors qu'ils grimpaient, Joshua se fit piquer par un scorpion. Ses frères cherchèrent de l'aide et on le transporta en ambulance à Naharia, où il fut soigné et gardé plusieurs heures en observation. Mais pour ne pas nous affoler, les garçons ne nous ont pas appelés, affirmant aux gens de l'hôpital que nous n'étions pas dans la maison. 14 avril. Ce soir, le repas de la Pâque. Tous ensemble, sains et saufs. Hier, le jugement du rabbi Ido Elba, arrêté ici il y a 6 mois, a été rendu. 2 ans de prison. Les juges ont appuyé leur décision sur le manifeste rabbinique dans lequel le rabbi disait qu'en temps de guerre, c'est un commandement de tuer les ennemis. Et puisque nous sommes en guerre avec les Arabes, c'est un commandement de les tuer. Il est donc maintenant accusé de racisme et d'incitation au meurtre. Qu'en est-il de la Bible lorsqu'elle nous montre les Égyptiens engloutis par la mer? Racisme? Incitation au massacre? 23 avril. Pour Pâques, les habitants de Kiryat Arba ont reçu un beau cadeau des forces de sécurité. Lors d'une fusillade dans Hébron, 3 terroristes ont été tués alors qu'ils étaient en route pour une attaque dans une Subaru bourrée d'armes et d'explosifs. L'un d'eux était tout en haut de la liste des criminels les plus recherchés. Joshua est follement soulagé. Il dit à ses frères et sœurs que c'est fini, il n'y a plus de terroristes. Personne n'a eu le cœur de lui expliquer que des terroristes tout en haut de la liste sont souvent en liberté dans Hébron, en particulier Capicha, le responsable du meurtre de 8 de nos voisins. La situation des gens blessés dans l'attaque du car de Kiryat Arba reste terrible. Rachel Lévy avait seulement reçu un éclat dans la main. Les médecins ne s'en sont pas assez occupés et maintenant, sa main est paralysée. Une jeune fille de 20 ans est toujours à l'hôpital parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle a reçu 2 balles dans le pied et peut à peine marcher. Sa mère s'occupe de son père qui est dans le même état et lui a demandé de ne pas rentrer à la maison parce qu'elle ne pourrait pas s'occuper de 2 infirmes à la fois. 6 mai. Dimanche dernier, Samuel a oublié de me dire qu'après sa leçon de français, il devait aller à Jérusalem pour y travailler jusqu'au soir. À 11h du matin, ne le voyant pas rentrer, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé son professeur. Il avait normalement terminé sa leçon à 9h moins le quart. À 13h, j'appelle chez son camarade de lycée. Il ne l'avait pas vu, n'étant pas allé en classe. À 2h30, j'étais malade. J'ai passé encore 1 heure au téléphone avant d'apprendre qu'il travaillait tranquillement à Jérusalem. Aujourd'hui, Joshua a fait la même chose, oubliant de me dire qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Et voilà, quelques cheveux gris en plus. Dans cette dernière partie, nous avons vu Hébron et Kiryat Arba une fois de plus. Et quelques extraits du livre vont nous permettre de terminer cette session. Je lis d'abord, dans la page 282, un tout petit texte. Jamais je n'ai perçu aussi fort la puissance de la foi qu'hier dans le car qui me ramenait à la maison, en pleine nuit, ressentir tout au fond de soi la foi, quoi qu'il arrive en dépit de l'ombre lugubre qui vous enveloppe. C'est quelque chose qui vous apprend beaucoup. une deuxième lecture nous parle encore d'une autre façon de voir les choses. « J'ai toujours aimé Dieu, me dit-elle. » C'est l'ami de Jéry qui lui parle. « J'ai toujours pensé qu'il était juste et bon et j'ai refusé toute autre pensée. » Quant à moi, ma relation à Dieu a balancé d'un extrême à l'autre, de la haine à l'amour. Parfois l'amour l'emportait, parfois la haine et le refus. Après la mort de ma mère, après l'évacuation du Sinaï, après la disparition de Aaron Gross, j'ai coupé le contact avec lui. Mais alors, chaque fois, la confusion, la maladie, le désarroi emplissaient ma vie et plongeaient ma vie dans l'ombre. Et c'est un fait tout simple. Lorsque Dieu nous tourne le dos ou lorsque nous nous écartons de lui, alors la tristesse, la mélancolie, le vide et toutes les peurs sont notre lot. Qu'il soit avec nous et le monde prend tout son sens jusque dans l'infinité de ses apparences. Et une troisième lecture. Dimanche dernier, Samuel a oublié de me dire qu'après sa leçon de français, il devait aller à Jérusalem pour y travailler jusqu'au soir. À 11h du matin, ne le voyant pas rentrer, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé son professeur. Il avait normalement terminé sa leçon à 9h moins le quart. À 13h, j'appelle chez son camarade de lycée. Il ne l'avait pas vu n'étant pas allé en classe. À 2h30, j'étais malade. J'ai passé encore une heure au téléphone avant d'apprendre qu'il travaillait tranquillement à Jérusalem. Aujourd'hui, Joshua a fait la même chose, oubliant de me dire qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Quelques cheveux gris en plus. Et voilà comment se passe la vie, avec différentes réactions. C'est un peu le résumé de cet épisode. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus. À bientôt pour la suite et le dernier épisode de notre livre « Vivre à Hébron » de June Levitt.